plus savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Sophie Torlotin, Isabelle Chenu.
C'est une famille comme il en existe beaucoup. Une mère arrivant de Côte d'Ivoire et élevant seule deux de ses enfants, deux garçons, en banlieue parisienne à la fin des années 1980. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
Les gens normaux ont une histoire et l'ordinaire devient extraordinaire par la grâce du regard d'un cinéaste. L'identité de Français née ailleurs, le racisme, le destin d'une femme libre aussi, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec nos deux invités. La réalisatrice Léonore Serrail, bonjour.
Bonjour.
Et à vos côtés, Annabelle Langrone, bonjour.
Bonjour.
Vous incarnez cette mère et cette femme libre, Rose, dans le film Un petit frère, en salle en France, mercredi prochain.
Maman parlait avec un air qui rendait important. En même temps, elle regardait toujours un peu ailleurs. C'était dur de savoir comment elle se sentait. Je veux dire, comment elle se sentait vraiment. Le soir de notre arrivée en France, elle remuait les hanches. Ça l'aidait à tenir debout, j'imagine. Alors peut-être parce que j'étais le plus petit, je me suis accroché à sa lumière, pas au reste. Sa valise pleine de douleurs qu'elle avait rapportée du pays, elle l'a gardée secrète.
Voilà, la voix d'Ahmed Silla qui incarne Ernest adulte, hein, c'est le petit frère de votre film, Léonore Serrail. Alors, on le disait, le titre c'est « Un petit frère » et de fait, on l'entend à cette voix off, on a le sentiment d'être dans son point de vue, mais en fait c'est le portrait d'une famille que vous faites.
Oui, oui, tout à fait. C'est le portrait d'une famille en trois temps, on va dire, et la maman lance le film, parce que c'est la matrice. Et le petit frère traverse le film. C'est-à-dire que lui, il est dans, logique dans toutes les parties. Et on le voit grandir, devenir un homme un peu en toile de fond jusqu'à arriver là où il est. Mais c'était important que chacun ait sa partie un peu à part égale, avec des points de vue différents, bien sûr, mais aussi pour faire des échos, des résonances entre eux, des regards, des gestes qui peuvent... parcourir le film, des étreintes qui se font ou pas, comment on évolue en fait au sein d'une famille. Mais c'est vrai, c'est la maman qui commence, qui lance la première partie à son arrivée.
Vous avez dit, Léonore Serrail, que c'était un roman de famille.
En fait, cette idée de film, elle est venue de ma position de spectatrice, d'une histoire de famille qui fait partie de ma vie, c'est un peu la vie de mon compagnon. Et c'est quelqu'un qui lit beaucoup de romans du 19e. Il est quasiment que ça, je crois. J'avais à cœur de d'écrire et de quelque part que le film trouve une forme qui soit pas seulement mon film, mais qui soit aussi une forme qui lui parle. Et je pense que j'ai pu en effet évoquer le mot roman parce que c'est un roman de famille, c'est une espèce de chronique, une saga. Je sais pas trop comment le décrire, mais c'est un portrait de famille éclaté dans le temps qui avance chronologiquement. Mais c'est le roman, ce qui est intéressant, c'est que dans le roman, c'est qu'il y a des moments qui servent à rien dans la dramaturgie, dans le récit, et qui sont presque les moments qui, moi, enfin, en tant que lectrice, c'est les moments que je préfère. C'est les moments où on a le temps de se poser, en fait, deux secondes, d'être avec quelqu'un, de le regarder un petit peu vivre, faire quelque chose qui est hors tout. C'est juste l'instant. Ça peut être une caresse, ça peut être un regard, ça peut être une main sur une épaule. Enfin, c'est aussi des temps comme ça d'observation où on voit les gens grandir. Le roman, c'est un peu l'ancêtre de la série, quoi, aussi.
Annabelle Langrone, vous jouez votre premier grand rôle au cinéma. Vous incarnez ce personnage de Rose, cette femme insoumise, complexe aussi, libre mais dure, fantasque mais sévère. De quoi vous êtes-vous nourrie? Est-ce que vous en avez rencontré des roses dans la vie?
Alors, je pense que la première Rose, je l'ai rencontrée parce que j'étais dans son ventre. Donc, c'était ma maman, biologique, parce que je ne la connais pas, qui est arrivée du Sénégal dans les années 80. l'année d'ailleurs où l'intrigue commence pour notre film. Et après, elle est donc je suis née à Paris. Et après, elle est repartie. Et donc après, j'ai rencontré d'autres roses dans le quartier dans lequel j'habite, dans le 18e arrondissement, à Château-Rouge. Là, il y a des roses de toute l'Afrique subsaharienne, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Et cela m'a aidée à l'imaginer, elle, à différents âges. Et donc, voilà, c'est déjà pas mal. J'avais déjà un bon terrain de jeu pour commencer à créer ce personnage.
Justement, comment vous l'avez imaginé? Bon, j'imagine que vous êtes parlé, mais il y a beaucoup de... Il y a des ellipses et puis il y a des choses qui ne sont pas expliquées, peut-être aussi aux spectateurs d'imaginer. On ne sait pas, par exemple, pourquoi exactement Rose quitte la Côte d'Ivoire avec deux de ses enfants. Elle en laisse au pays. Est-ce que c'est pour des raisons économiques? Est-ce que c'est pour d'autres raisons?
C'est un mélange de choses. Rose, elle a un parcours. C'est ce que j'ai pu discuter, même au casting, en rencontrant beaucoup de comédiens et de comédiennes. C'est « Ah, c'est l'histoire de ma cousine, c'est l'histoire de mon oncle, c'est l'histoire de ma sœur. » C'est-à-dire, c'est le schéma d'arriver pas forcément avec tous les enfants d'un coup. Alors, le regroupement familial qui se fait ou pas. Mais c'est vrai qu'on a essayé de la penser comme une sorte de personne très singulière, bien sûr, avec toute sa complexité, mais en même temps, comme un personnage très ouvert dans lequel on puisse se projeter facilement, homme ou femme, d'ailleurs. Et je pense qu'elle vient en effet d'un pays d'Afrique subsaharienne, mais elle pourrait peut-être venir d'ailleurs. Et c'était vraiment de l'ouvrir au maximum et de montrer comment on s'attache à un pays, qu'est-ce qu'on laisse, les sacrifices qu'on fait, et en même temps, qu'est-ce qu'on trouve en France, comment on dessine un chemin. Donc Rose, il fallait la trouver et il fallait en même temps la donner, c'est-à-dire la rendre pleine de mystères, mais comme les gens dans la vie, en fait. Les gens sont pleins de secrets, de mystères.
Je me demandais, Annabelle Langrone, justement, Rose, vous l'incarnez sur un temps assez long, sur presque toute sa vie avec ses enfants. Donc vous avez différents âges, différentes époques. Elle-même, elle évolue. Comment vous la définiriez?
Je pense que je ne la connais pas encore tout à fait, comme on ne connaîtra jamais complètement quelqu'un, de toute façon. Mais en tout cas, au moment où l'action commence, elle n'est pas dans le passé, elle est dans le présent et elle est là pour rester. Elle est là pour se découvrir elle aussi. Il y a une éducation sentimentale que l'on peut suivre par rapport aux rencontres qu'elle fait avec les hommes, par rapport à comment elle envisage sa propre liberté, son travail, son rôle de mère. Donc tout ça en fait quelqu'un qui a envie de... quelles que soient les difficultés des choses et de la vie, de prendre du plaisir dans tout ça, de s'amuser et de prendre le temps pour elle. Donc, voilà.
On s'en rend compte assez vite, en fait, dès le début. Donc, Rose est accueillie avec, et hébergée avec ses deux garçons par de la famille, qui la pousse très vite hein, dans les bras d'un ami, Jules César.
Tu sais, dans la vie, là, il faut prendre quelqu'un qui aime tes enfants. Hein? Pas quelqu'un que toi-même tu aimes. C'est important.
Oui, oui, Eugénie.
Hein, Rose?
Oui, Eugénie. Oh,
c'est un peu gênant. Dès la conserve. Bon. Tu sais que seul, on perd pied. Et ça serait dommage. Tes pieds sont superbes.
Je ne suis pas seule.
Tu as besoin de quelqu'un. Pour toi, pour les enfants. Qui s'occupe de toi. Non?
Tu parles trop.
Oh. Oh. C'est vrai, c'est vrai. Mais ma boutique, ça marche bien. Hein. C'est ouvert tous les jours. On va manger ensemble. On emmène les enfants quelque part. Il faut pas rester seul.
Voilà, il faut pas rester seul. Hein. Ça revient plusieurs fois dans ce dialogue, Léonore Serrail. On est à la fin des années 80. Être maman solo, c'est mal vu à l'époque? C'est ce que vous...
Mais pas qu'à l'époque, ouais. C'est toujours difficile. Il ne faut pas rester seule, mais elle a envie de faire l'expérience d'une forme de solitude, mais solitude au sens aventure, avec toutes les difficultés que ça implique. Mais c'est vrai qu'elle quitte, je pense, une forme de dépendance ou des ponts ou des attachements, et que là, elle ne sait pas pour en retrouver immédiatement d'autres, au début en tout cas. Donc elle cherche peut-être des années d'adolescence, tu parlais d'éducation sentimentale, mais c'est ça, elle cherche à vivre, donc ça... C'est-à-dire qu'on ne peut plus tout à fait, j'ai l'impression, enfin c'est ce qu'on s'est raconté, on ne peut plus tout à fait raconter de la même façon les Mater Dolorosa, en fait. C'est-à-dire que Rose, elle a une modernité en elle. Moi, c'est ça qui m'intéressait énormément, c'est qu'elle elle s'affranchit de beaucoup de choses. Alors, ça a forcément un prix, hein, la liberté, ça coûte cher quand même, en énergie, en fatigue. Mais je trouve que ce qui me frappait, c'est à quel point elle ose prendre justement des choses pour elle. On n'est plus juste dans l'image de la femme qui donne et qui donne et qui... Alors, elle n'est pas facile. C'est-à-dire qu'elle n'est pas confortable tout le temps. Avec ses enfants, elle en demande beaucoup. Mais elle leur met la barre très haute parce qu'elle s'est mise peut-être la barre très haute aussi. Mmh. Tout ça, ça nous intéressait de voir à quel point l'amour se raconte de différentes façons et se transmet d'une façon pas forcément simple, mais pourtant très pure, en fait.
Moi, ce que j'aime beaucoup, pardon, dans Un petit frère aussi, c'est que ce personnage de Rose, il est imparfait. Je la trouve imparfaite, et c'est ce qui en fait toute la complexité. C'est pas un personnage qui se sacrifie pour ses enfants. On voit souvent ce personnage de femme sacrificielle pour ses enfants, ou alors qui va totalement partir ailleurs. Elle fait comme elle peut, elle essaye de mener sa vie sur tous les fronts. Mmh. Qui veut répondre ?
Oui, bien sûr. En fait, il y a Mona Chollet dit dans Sorcière, la puissance invaincue des femmes, que la femme est souvent un cimetière de désillusions. C'est ça, des illusions. Mais pour le coup, moi en tout cas, quand j'ai rencontré Rose, c'est carrément le contraire en fait. Elle arrive, elle est jeune, elle a deux enfants avec elle et les autres sont restés au pays. Et on lui propose quelqu'un, on veut tout de suite, tout le monde veut se rassurer dans cette cellule familiale où il faut absolument pas que cette femme reste seule parce que ça fait pas bien. C'est pas forcément pour l'aider, c'est parce que ça ne fait pas bien. Et elle pourrait trouver de la sécurité, du réconfort, parce qu'elle n'est pas dans son pays. Elle dit non, moi je ne suis pas toute seule. Elle dit à Jules César, non, j'ai envie d'explorer cette nouvelle vie sans les hommes, sans toi, sans vous en fait. Donc c'est soit de la folie, soit du courage, soit du panache. Ce personnage a beaucoup de panache.
Elle a un côté guerrière un peu. Hein.
Mais moi je pourrais pas ça comme de la guerre. C'est... Parce que je ne pense même pas qu'elle se batte contre elle-même non plus. Hein. Au contraire, elle a beaucoup dans le lâcher-prise. Et ça fait du bien de voir ça, en fait, moi, je pense.
J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a une haute conception de la liberté. Donc, elle va la faire vraiment. C'est-à-dire avec tout ce que ça implique aussi d'imperfection. Mais c'est ça, en tout cas, que je trouve super au cinéma. C'est qu'on peut montrer les gens leur bon côté, leur mauvais côté. Comme dans la vie normale, je vois personne de parfait, d'héroïne parfaite. Il y a toujours un truc un peu qui nous... Ah. Mais c'est normal, les gens sont comme ça, ils donnent le meilleur. Mais du coup, on peut montrer tout ce qui irradie, en fait. J'ai l'impression qu'elle c'est un électron libre aussi. C'est-à-dire qu'elle peut, peut déplaire, elle peut surprendre. Mais en tout cas, elle ose et elle le fait avec son style à elle. C'est ça que je trouve intéressant avec Rose.
Astine, parfois incandescent, effectivement, Rose veut vivre sa vie comme elle l'entend, ça veut dire aussi aller danser. Voilà, une pause musicale, mais on reste dans l'univers de votre film Un petit frère, Léonore Serrail, avec ce titre de technotronique, Pump Pump the Jam. The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Sur RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes en compagnie de Léonore Serrail et d'Annabelle Langrone pour parler du film Un petit frère. Alors cette musique de danse déchaînée, c'est ce moment où Rose participe à une soirée débridée dans un château. Mmh. Et là, Léonore Serrail, le récit qui était réaliste, passe, il me semble, dans un côté presque onirique.
Oui, pourtant, les bases de cet épisode-là, du film, de cette parenthèse qui n'en est pas une, sont très réalistes. C'est-à-dire que mon copain m'a souvent raconté qu'il mangeait les petits, sa mère, elle ramenait des pigeons, des oiseaux chassés par le patron des hôtels et qu'il les mangeait, que des fois, il y avait des bouts de plants dedans et que peut-être il invitait en fait les employés de son hôtel à des fêtes. Donc voilà, c'est parti de là. C'est parti de là, mais c'était l'occasion, en effet, d'en faire un moment un peu punchy dans lequel Rose, bah, comme elle a peur de rien, elle y va, elle s'aventure. Et puis, il y a une forme d'ironie. Le cercle, ce châtelain qui est là, qui est mi-châtelain, aristocratie un peu fin de race, tellement français et en même temps un peu nouveau riche à la fois. Il est dans une forme de, je pense, il se sent généreux, comme beaucoup de gens le sont, ou croient l'être. Et puis, en fait, il y a toujours quelque chose à récupérer en échange. On n'est jamais tout à fait généreux. On ne fait jamais les choses sans rien. Et en même temps, c'était l'occasion de lui faire dire quelque chose d'important. De remercier ses employés d'hôtel et de lui faire dire « la France vous doit beaucoup », parce que c'est vrai que c'est important, c'est quelque chose qui n'est jamais vraiment dit, et même si c'est lui qui le dit, c'est un peu étrange. Mais la France doit beaucoup, en fait, à ces travailleurs un peu de l'ombre qui sont venus nettoyer les hôtels, construire les immeubles.
Ces premiers de corvée.
C'est un petit message. Ouais, bah oui.
Justement, à Léonore Serra, vous disiez tout à l'heure que vous n'avez pas voulu faire une héroïne de Rose au sens classique du terme. Pourtant, c'est quand même un peu une héroïne de l'intégration, justement de cette intégration invisible, silencieuse. Voilà, c'est pas une superstar, mais c'est peut-être ça manque au cinéma parfois, ces portraits de gens ordinaires qui font de leur mieux.
Ah oui, moi, c'est vrai que c'est souvent, comme spectatrice, ces personnages de films m'intéressent en fait. Je les trouve, j'ai l'impression qu'ils contiennent en eux tous un film en fait. Et là, c'est vrai que je la trouvais, forte bien sûr, mais ça permettait d'aller explorer plein de sujets en fait avec elle. Et notamment, est-ce que c'est que du positif et quels vont être les sacrifices? Qu'est-ce qu'elle va perdre aussi en fait au cours de la route? Il fallait une certaine honnêteté vis-à-vis de ça. On pouvait pas juste en faire une super héroïne, même si c'est ce que je pense quand même. Y a forcément. Quand on s'attache à un pays, qu'on devient français, qu'on vient d'ailleurs, il y a forcément des choses en route qui vont nous blesser et avec lesquelles il va falloir composer. Et Rose, elle se retrouve en prise avec ça directement et elle doit faire des choix. Ils sont ce qu'ils sont. Et j'ai essayé de le respecter, en tout cas, dans le film au maximum.
Peut-être une question à Annabelle Langrone, qui est Rose, pour parler un petit peu des relations que cette mère a avec ses deux garçons. Donc, il y a l'aîné. Jean, ouais. Le grand frère, et le petit frère qui est Ernest. Mm. Comment elle les élève, ces garçons?
Moi, ce que je trouve très beau dans ce personnage, c'est que quand ils arrivent, ils habitent tout le même, enfin, ils couchent tous les trois tout de même dans un placard. Ils sont hébergés donc, par la cousine Eugénie et le cousin Félicien, qui les accueillent gracieusement, mais voilà, toute cette situation est très précaire. Et Jean est très bon à l'école. Donc, elle suit la scolarité de son enfant. Elle va voir le professeur. Il y a une scène, d'ailleurs, où elle se préoccupe vraiment de ça. Et cette situation que je ne connais pas est terrible d'être entre la précarité. On ne parle pas d'histoire de papier, mais quand ils arrivent, ils n'ont pas de papier. Ils sont clandestins. Donc, tout ça n'est pas montré, mais en tout cas, cette situation d'angoisse n'a pas l'air d'être vécue par les enfants. C'est quelqu'un qui est solaire, c'est quelqu'un qui joue avec ses enfants, voilà, mais qui n'oublie pas de leur dire qu'il faut qu'ils travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'école, qu'il faut qu'ils soient les meilleurs que les autres et qu'ils ne pleurent surtout pas. D'ailleurs, cette phrase « ne pleurez pas », est-ce que c'est juste pour ne pas montrer une certaine faiblesse ou est-ce que c'est juste pour ne pas... Pour oublier aussi ce qu'on a quitté
et pour aller de l'avant.
Et voilà, exactement. Donc voilà, il y a beaucoup de douceur, de tendresse, mais il y a énormément de fermeté. Voilà.
Et d'exigence.
Voilà.
Dans un premier temps, Rose fait le ménage dans un hôtel à Paris, puis elle va quitter la capitale pour vivre à Rouen, plus près de son amant. Et bien sûr, elle embarque ses deux garçons.
Elle nous annonça qu'on partait vivre à Rouen. Un petit deux pièces, en plein centre-ville. Nous irions dans de bonnes écoles. Nous aurions de bonnes fréquentations. Elle voulait le meilleur pour nous. La vie de château. Château Thierry. Nous, on voulait pas quitter le placard. Elle n'était pas du genre à changer d'avis. Elle a fait les valises. On est parti.
Bon, ça, il ressemble à Tintin, ton personnage.
Tintin avec des grosses jambes, plus grandes que son corps.
Tiens.
Par contre, pourquoi je tourne là? J'aime pas.
Mais parce que t'as pas la bonne technique. Faut que je te montre. Attends, je vais te montrer mon.
Pied, toi.
Mais non, mais tu utilises pas les bonnes touches. Faut que je te montre le nouveau
vas-y,
combo.
Vas-y, viens, viens.
Regarde, regarde le nouveau combo, regarde.
Oh
bon, allez, on reprend la première phrase, tu vas y arriver.
Mais c'est trop dur, les devoirs avec toi.
Allez, reprends. T'as même pas essayé.
Là, là, c'est les deux frères vont se retrouver beaucoup seuls hein, dans cette partie à Rouen, Léonore Serrail. On a entendu la voix de l'aîné Jean, joué par Stéphane Bach. C'est lui qui va s'occuper de son petit frère. On sent que ce Jean, si brillant à l'école, si conforme presque aux attentes de réussite, d'intégration, porte un poids lourd, mais vraiment très, très lourd.
Ah oui, c'est lourd. C'est lourd parce que s'intégrer, c'est pas facile. Et ça veut dire, dans son cas aussi... devenir un transfuge de classe aussi, c'est-à-dire que c'est plein de choses, et en même temps être papa de son petit frère. Donc c'est lourd. C'est lourd, et il est en province, c'est-à-dire qu'il doit, lui, s'est déjà adapté à la banlieue parisienne, et en effet, il change encore. Donc il doit s'adapter à des codes de la bourgeoisie rouennaise, du lycée Corneille, et de la prépa, et en effet, tout un univers qu'il maîtrise pas, dans lequel il s'autorise pas à réussir. C'est pas si simple de s'autoriser à réussir, en fait. Et de se dire, bah, j'ai ma légitimité d'être là, de faire ça. Donc ça l'emmène dans un spleen, une sorte de dépression un peu. Il y a l'envie de y arriver, mais c'est vraiment un moment de grande fragilité. Après, je pense qu'il est aussi comme une éponge. C'est-à-dire qu'il est sensible à la douleur de sa maman, à ce qu'elle vit sentimentalement, mais aussi au travail. Enfin, elle fait les allers-retours. Plein de voyageurs comme ça, de travailleurs qui partent de loin en fait, pour aller travailler dans le centre de Paris. Donc la Rouen, c'est quand même pas à côté. Donc tout ça, ça l'impacte. C'est quelqu'un d'ultra sensible, Jean, en fait.
Et puis à ce moment-là, lui, du coup, Rose donc, travaille à Paris la semaine et revient le week-end à Rouen. Et donc, cette pression par rapport aux devoirs, par rapport aux études, à l'université, elle est encore plus forte parce qu'il est... Il y a toujours, comment dire, cette présence de Rose au-dessus de son épaule qui attend de savoir si l'intégration se passe bien. Enfin, je dis des mots peut-être un peu maladroits, mais l'excellence... et ce qui est exigé, pas moins. Quoi.
C'est un personnage presque tragique, personnage de Jean. Mmh. Parce qu'on a le sentiment, comme spectateur, que toutes les portes s'ouvrent à lui. Il y est, en fait. Il intègre une classe prépa, il est en couple avec une jeune fille de bonne famille, d'une bourgeoisie blanche, et à un moment, ça va... Voilà, ça dérape.
Ça tangue, ouais, ça dérape. C'est ça, la bizarrerie du parcours de cette famille, c'est que... Des fois, pour que les plus petits ou les générations de maintenant, en fait, trouvent leur place, malheureusement, quand on regarde avant comment ça s'est passé, il a fallu des fois passer par ça, par des moments extrêmement compliqués. C'est une histoire de... Bah, l'époque, elle progresse malgré tout. Le film, il montre ça quand même. Il y a du progrès, c'est pas encore ça, en fait. Il y a énormément de travail. Mais en tant que personne, après, au-delà de ça, en tant que personne, le petit frère, il se construit, enfin, on se construit tous, c'est pas que Ernest, on se construit tous par rapport aux grands frères, aux grandes sœurs, aux aînés, soit en suivant, soit en étant contre. Donc, dans le cas d'Ernest, bah, il observe son grand frère aller mal, donc lui, il va choisir sa voie, il va faire autrement, je sais pas. En tout cas, c'est ça qui me semble très présent dans beaucoup de familles, en fait. Là où, quand j'ai compris ça, l'écriture s'est ouverte, et c'était la famille qui était le plus important dans le film.
Est-ce que ça signifie, Léonore Serrail, qu'il y a toujours un prix à payer et qu'il y a toujours des sacrifiés pour ouvrir peut-être la voie à d'autres?
Je ne sais pas, je pense que rien n'est figé et écrit et que même s'il y a des sacrifices à des moments, après, la retourne toujours. Parce que sinon, c'est trop dur. Donc s'il y a des sacrifices à des moments, il y a des éclosions, des métamorphoses à d'autres. Et ça, voilà, qu'il y a un espoir à garder, quoi qu'il arrive. Si ce n'est dans la vie, au moins dans les films, j'espère.
En termes de... Parce que vous parliez de la famille, donc évidemment, elle est portée par les interprètes. C'est en termes de casting, c'est Annabelle Langrone que vous avez choisie en premier. Et auprès de qui, du coup, vous avez trouvé les fils?
Eh bien oui, on a choisi avec Yuna de Peretti, la directrice de casting. On pensait... on avait un ordre. Donc il fallait beaucoup de personnes. Donc on s'est dit qu'on allait trouver la maman d'abord. Donc on a cherché la maman. Ça a été assez rapide, en fait. Ça a été une évidence totale avec Annabelle qui nous a retournés dès le premier rendez-vous. Et après, on a cherché les deux, Ernest et Jean, adultes. Donc, on a rencontré Stéphane Bach. Très rapidement aussi, ça s'est imposé comme une évidence. Et Ahmed, moins évident pour moi, parce que j'avais peur de le rencontrer. Je me disais, ah non, on va pas se comprendre. Je sais pas pourquoi, ma bêtise, quoi. Je me suis dit qu'on allait pas se comprendre et tout. Mais pas du tout. Ça a été pareil, tellement facile de travailler ensemble, de pas être nous deux à notre place forcément. C'est magique quand ça se passe comme ça. Et après, on a cherché les ados et les enfants. Enfin, Kenzo, Sambin, et après les deux petits frères, pour trouver la luminosité qui parcourt chacun et une cohérence aussi. Il fallait que ça soit un peu crédible, tout ça.
Annabelle Langrone, Rose, au cours de son parcours, c'est vrai que vous la décrivez comme une jeune femme solaire qui a envie d'expérimenter sa vie, arriver en France, etc. Mais tout au long de ce parcours, quand même, on sent beaucoup de fatigue au final. Et à la fin, on sent qu'elle est un peu brûlée.
Ouais. Si la Rose de 1989 voyait celle de 2010, c'est vraiment des personnes très différentes, parce que au départ, elle est prise de liberté, les codes ne comptent pas, voilà, je fais ce que je veux, je sors si je veux. Et puis au fur et à mesure, il y a des choses qui se fanent. Le travail de femme de ménage est éreintant pour les mains, pour la peau, pour le dos. Voilà, c'est un des métiers les plus durs qui existent. Et elle a également une forme de résignation, parce qu'elle revient vers Jules César, parce que voilà, elle a des amours déçus. Et il faut qu'il y ait un socle familial, parce qu'elle sent bien que ses enfants sont livrés à eux-mêmes. Moi, je pense qu'elle fait ce choix-là pour eux, d'abord. Et donc, oui, comme disait Léonore, la liberté a un prix. Elle se fatigue, mais je ne sais pas si elle s'assagit vraiment.
Voilà. Elle rentre dans le rang,
voilà,
un petit peu.
Voilà, voilà.
Contrôle de police, hein, vous mettez sur le côté, monsieur.
Bonjour.
Vous avez une pièce d'identité sur vous ?
Non, je sors juste de chez moi, j'ai laissé mes papiers.
Tu le parles, s'il te plaît ?
Attendez-vous, c'est un contrôle.
Monsieur, on se calme. Ok, vous n'avez pas une pièce d'identité sur vous, là ?
Non.
Donc, vous laissez mon collègue vous palper et puis vous allez me donner votre identité, sinon on va au commissariat. Ça vous va ?
Très bien.
Ok.
Vous êtes
assez clair, ça ?
Oui, oui, c'est la procédure habituelle.
Allez-y, monsieur. Allez-y, c'est pas un spectacle. Alors, votre nom, s'il vous plaît.
Ernest Coffey.
Le nom ?
Coffey. K-O-2-F-I.
Ok. Prénom, Ernest ?
Ernest, oui.
Date de naissance ?
Le 5 mars 84.
Mars 81. Vous êtes né où ?
À Abidjan.
Quel pays, ça ?
Côte d'Ivoire.
Pardon ?
Côte d'Ivoire.
Ok. Patientez.
Il est de quelle nationalité, le monsieur ?
Français. Oscar, Foxtrot, deux fois, India.
C'est bon ?
Ouais, c'est bon. Faites quoi dans la vie, monsieur ?
Je suis prof de philo.
Et
en fait, j'étais en train de corriger des copies et je suis sorti prendre du café.
Donc, pas de pièce d'identité ?
Ouais, franchement, je suis sorti à la hâte, j'ai pas fait
attention. Écoutez, le Ronald Mac, il va m'écouter, ok ? La prochaine fois, pas de pièce d'identité, on va au commissariat, c'est 4 heures en garde à vue. Message est passé ? Ok ? C'est assimilé ? Allez-y, bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.
Léonore Serrail, vous riez en entendant cet extrait, c'est extrêmement violent. Non, vous avez le droit de rire. Mais nous, comme spectateurs, on trouve ce moment particulièrement violent. On vient de passer plus d'une heure, en 1h30 peut-être, quand ça arrive en compagnie. On a vu toute cette famille et on trouve que voilà, c'est visiblement assez banal, une situation que Ernest a vécue à de nombreuses reprises et qui effectivement, quand même, une violence. Incroyable.
Oui, non, je riais parce que il s'appelle Coffey et qu'on s'est pris un fou rire avec Ahmed, parce que Coffey, il y a eu le café Coffey, enfin bref, je pensais à ça. Mais c'est une scène en fait qui a été très très rapidement écrite au scénario, parce que je l'ai vécu, mais presque mot pour mot, mais non, parce qu'il était étudiant de philo, mon copain, à ce moment-là. Dans le métro à Barbès, on s'est fait contrôler par la police et j'avais trouvé ça tellement choquant, tellement horrible, et en même temps, c'est déjà arrivé d'autres fois. Et je trouve que la scène est plutôt light, en fait. Hein. En vérité, moi, on m'a dit, ouais, elle est un peu agressive, c'est un peu... Bah non, je suis désolée, elle est super cool. Il y a bien pire comme moment à passer. Et elle est là parce que c'est une scène de présentation. Il dit son nom, il décline son identité. C'est la première fois dans le film qu'il le fait. C'est plutôt vers la fin du film. Et je trouve ça ironique parce que c'est vrai qu'il est tout à fait à sa place. Il a un métier, il est là. Il a sa vie, quoi, en fait. Il vit dans ce pays, c'est sa maison. Et on lui dit à un moment, mais vous êtes qui en fait ? Vous faites quoi là ? Et ça, c'est toujours un truc que j'oublie. Moi, je ne le vis pas, cette situation-là, mais ça m'horripile, ça me met en colère, bien sûr. Le ça fait pas ne pas mettre cette scène.
Le fait qu'on nous renvoie, quand je dis nous, c'est... je ne vais même pas dire les personnes non blanches, parce que c'est faux.
C'est être noir en France.
En tout cas, en parlant des personnes noires, mais voilà, moi, je crois que c'est il y a un an, je vais à un casting, je prends le métro à la Chapelle, et puis je suis interpellée par des forces de l'ordre qui me demandent si je venais du foyer malien qu'il y avait juste à côté. Alors, qu'importe qu'il me parle d'un foyer malien ou pas, c'est juste qu'on me renvoie, on nous renvoie tout le temps au fait qu'on n'est pas d'ici, qu'on n'est pas légitime à être là. Et moi, je suis née à Paris, je suis née dans le métro, donc je leur ai dit oui, je suis là, je suis française, monsieur. Mais voilà, et ça arrive à des moments, comme vient de dire Léonore, où on ne se pose pas cette question. Moi, je ne me pose pas la question tous les matins. Si c'est normal que je sois là et si
d'autant qu'on n'a pas toujours enfin qui que ce soit je parle pour moi de pièce d'identité sur moi
jamais de problème
c'est aussi une dimension du film Un petit frère, la question de l'identité, la question de ce qu'est être français encore aujourd'hui.
Bien sûr, c'est j'avais besoin de comprendre en écrivant, c'est vraiment la base de départ, pourquoi j'avais des moments, enfin j'avais besoin de le comprendre lui. Quel était son pays en vrai ? Parce que des fois, on peut entendre, voilà, si un jour je vais au pays, du coup, le pays, ça veut dire quoi ? Et tout est venu, j'ai tiré les fils de ça pour comprendre le lien qu'on peut avoir avec une maman, même si c'est notre maman, pourquoi elle nous est peut-être un peu étrangère ? Est-ce qu'on est de la même famille finalement ? Est-ce qu'on se comprend ? Est-ce qu'on partage la même langue ? Je parle de la langue intime, la langue du cœur. Est-ce qu'on se comprend ? Donc, il y avait tout ça. Et je ne sais pas si j'ai trouvé la réponse de tout, j'ai mieux compris certaines choses.
En 2023 ? Là, on est dans les années 80 ou 90. Il y a encore du travail à faire.
Mais c'est même pas une question que même aujourd'hui. C'est que ce sera, il y aura toujours ce problème-là. La déconstruction, c'est un grand terme, c'est un grand sujet. Mais non, mais vraiment, voilà, il faut un peu plus se regarder tous. Chacun, d'ailleurs, lui-même, une introspection ne ferait pas de mal. Et puis tout le monde se regarder un petit peu plus. Parce que là, en ce moment, ça se... clive beaucoup.
Ça se crispe.
Ouais.
Juste une question, Annabelle Langrod, sur Rose, que vous incarnez à plusieurs âges. Comment vous l'avez fait évoluer physiquement ? Comment vous avez appréhendé ce vieillissement de Rose ?
En fait, avant de partir sur les petites cerises de la fin, c'est-à-dire sur les petites touches, on parle d'abord d'énergie. Elle a une énergie folle en arrivant en France. L'énergie des années 80, moi, je n'ai pas connu, mais d'après ce qu'on me dit, il y avait une énergie particulière. Et donc, ensuite, par rapport à son travail, il y a des choses qui se ralentissent un petit peu plus. Si le dos est touché, on marche un petit peu moins vite, peut-être. Après, il y a un travail aussi de maquillage. Géraldine Belbéor, qui était donc maquilleuse, on a choisi de moins hydrater la peau, que ce soit moins lumineux. Et puis ensuite, pour la dernière phase de vieillissement, alors moi, je m'en suis donné avec joie parce que j'ai beaucoup mangé. voilà, à la fin, elle a 55 ans, il fallait juste montrer vraiment un vrai changement physique. L'énergie est un peu plus ramassée. Et un peu moins volatile, voilà.
Une dernière question, puisque vous disiez, Léonore, que vous étiez inspirée de l'histoire de votre compagnon. Il a vu le film, j'imagine.
Oui, il a vu, il m'a pas du tout... il m'a tout de suite dit qu'il avait carrément envie que je fasse ce projet de film, et la condition, c'était de... Je crois qu'il était curieux de voir ce que j'allais faire de ça. Donc, il m'a pas vraiment aidée, en fait. C'était très bien, j'ai eu carte blanche totale. Par contre, je l'ai montré à la fin, bien sûr.
Et alors ?
Il avait l'air content, il m'a dit c'est bien parce que c'est notre histoire mais c'est pas forcément nous, et j'ai senti que la fiction avait joué, avait pris toute puissance du film, avait pris sa place, et qu'il avait fait lui-même la rencontre d'une famille. Ce qu'il a aimé, c'est de pas être associé à ce qui des fois lui il fait arrêter les films quand on regarde des films ensemble, c'est-à-dire une esthétique un peu sombre, violente ou dur. Il a aimé avoir un petit peu de douceur, des couleurs il mettait en valeur les personnages, la musique ou les choix de texte. il était content, je sais pas si je peux parler à sa place, mais d'être associé à une autre esthétique, en fait. Parce que je crois que les gens, mais tous, on a besoin une variété de regards sur nous, en fait, pour pas être rangé dans la case média ou dans la case film violent, en fait. Et c'est ça qui m'a semblé important dans toute la fabrication qui était passionnant à faire.
On ne voit pas beaucoup de tendresse entre noirs sur les écrans. Vraiment pas beaucoup. Donc là, c'était chouette aussi à jouer, ça. Voilà.
Effectivement, c'est vraiment le portrait très tendre d'une famille. Un petit frère sort en salle mercredi prochain. Merci beaucoup, Léonard Serrail. Merci, Annabelle Langrone. On va feuilleter avec vous, Isabelle, le journal du cinéma, juste après cette pause musicale tirée de votre film, Léonard Serrail. Et c'est le paradis par les G-Boss.
Elle est si jolie au paradis, la plus jolie fille d'Abidjan. Elle a l'air de gagement, ça peut tuer. Elle a les jeux de jambes, ça peut mourir. Son nom de baptême, c'est Paranoctune. Son nom de gasoil, Paradiakmani. Son nom de baptême, c'est Paranoctune. Son nom de gasoil, Paradiakmani. Maman Jolio. Il est maman jolio, paradis. Maman jolio, paradis. Dansez avec moi, paradis. Dansez avec moi, paradis. Tu dis tu veux pas, ah. Tu dis tu veux pas, ah.
Balou, oh wow.
Vous êtes bien sur RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. C'est le moment du journal du cinéma avec vous, Isabelle. Et cette semaine, on va parler des favoris des récompenses en France et aux États-Unis. En France, la cérémonie des Césars se tiendra le 24 février prochain.
Oui, et il y a deux films grands favoris à cette présélection des Césars. Une comédie policière réjouissante, L'Innocent, et une enquête sur un féminicide, miroir du machisme et de la violence faite aux femmes, La Nuit du 12. Les deux films avaient déjà largement séduit la critique et le public.
Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre ?
Est-ce que Clara avait des ennuis ?
Elle tombait facilement amoureuse.
Elle voulait toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse.
Elle aimait bien mon côté animal, mon baiser fort.
La Nuit du 12 totalise 10 nominations, dont le meilleur film et la meilleure réalisation. Dominique Moll avait reçu le César du meilleur réalisateur il y a 22 ans pour le film Harry, un ami qui vous veut du bien. Mais dans la course au César, c'est L'Innocent qui est en tête avec 11 nominations.
T'es sorti quand déjà de prison ?
Il y a une semaine.
Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour gagner ta vie ?
Je vais faire un peu d'intérim.
Celui avec le col roulé noir, là, tu le vois, là ?
Oh putain !
Quoi ?
Mais il est canon.
Sylvie !
Et qu'il est le troisième en 10 ans, tu l'as prévenu aussi ou pas ? C'est plus une prison, c'est un club de rencontres.
Je suis ta mère quand même !
Le réalisateur et acteur principal de L'Innocent, Louis Garrel, l'enfant de la balle, fils d'une dynastie du cinéma, côtoie dans la catégorie meilleur acteur ses aînés, Jean Dujardin et Benoît Magimel. Côté actrice, Virginie Efira, nommée pour Revoir Paris dans un rôle de victime d'un attentat qui peine à retrouver la mémoire à toutes ses chances, face notamment à Adèle Exarchopoulos ou Laure Calamy, qui a déjà obtenu le trophée en 2021. Parmi les autres longs métrages en lice pour le meilleur film Encore, de Cédric Clapiche, l'histoire d'une danseuse classique qui se reconstruit après une blessure.
Oui, d'ailleurs, Encore est le seul film parmi les favoris à avoir réuni plus d'un million de spectateurs.
Et oui, on va encore reprocher au César de ne pas valoriser les films populaires. Le 24 février, sur la scène de l'Olympia, c'est Tahar Rahim qui sera le président de la soirée. La présentation sera assurée collégialement par 9 maîtresses et maîtres de cérémonie pour respecter la parité et la diversité.
On connaît également, Isabelle, les prétendants aux statuettes dorées des Oscars et la cérémonie, ce sera le 12 mars.
Le film favori est Everything, Everywhere, All at Once, une comédie potache où les personnages sont projetés dans des mondes parallèles pour vivre les aventures et les combats de leurs différents avatars. Cate Blanchett pourrait remporter la statuette de meilleure actrice. Elle est en tête des votes pour sa prestation de chef d'orchestre puissante et névrosée dans Tar, tandis que l'acteur Austin Butler est favori pour son rôle dans Elvis. Cette année, pas de femme sélectionnée dans la catégorie meilleure réalisation, mais 5 hommes, dont l'incontournable Steven Spielberg avec The Fabelmans, inspiré de son enfance, ou encore le Suédois Ruben Östlund, Palme d'Or au dernier festival de Cannes avec Sans Filtre.
La 73e Berlinale, le célèbre festival de cinéma de Berlin, braquera ses projecteurs sur la guerre en Ukraine. On se souvient que l'invasion par la Russie a commencé le 24 février 2022.
Et c'est l'acteur et réalisateur américain Sean Penn qui ouvrira le bal avec en avant-première un documentaire sur l'invasion russe en Ukraine mettant en scène le président Volodymyr Zelensky. Le film s'intitule Superpower, Superpuissance. Sean Penn était à Kiev pour réaliser un documentaire en février 2022 quand l'invasion russe a commencé. L'acteur aux deux Oscars a par le passé suscité des controverses en raison de ses engagements politiques, notamment après son interview d'un parrain de la drogue mexicain alors qu'il était en fuite. Quoi qu'il en soit, la Berlinale, qui est en fait le premier événement cinématographique majeur de l'année en Europe, mettra plusieurs documentaires en avant, documentaires et longs métrages de réalisateurs ukrainiens, ainsi que des œuvres de cinéastes iraniens dissidents en signe de solidarité. Elle offrira également un espace d'exposition gratuit aux représentants de l'industrie du cinéma ukrainienne lors du vaste marché du film européen du festival.
Avatar 2, La Voix de l'eau, continue d'engloutir le box-office nord-américain.
Le film de James Cameron fait désormais partie du club très fermé des films qui ont dépassé les 2 milliards de dollars de recettes dans le monde. Seulement 6 films l'ont atteint dans l'histoire, dont 3 du cinéaste canadien, Avatar, Avatar 2 et Titanic.
Et on termine cette émission avec un film en salle en France depuis mercredi. C'est le deuxième long métrage du franco-congolais Jean-Luc Herbulot, dont on avait remarqué le talent avec la série policière et fantastique Sako et Mangan, diffusée sur Canal Plus Afrique. Et comme il aime bien le mélange des genres, le réalisateur de 38 ans mixe dans Saloum du western, de l'horreur, du film de vengeance, sans oublier des ingrédients de film noir.
La vengeance est comme un fleuve. Dont on atteint le fond que quand on se noie. Le ciné Saloum, la meilleure des planques pour des mercenaires en cavale.
Qu'est-ce qui vous amène dans notre magnifique région du Sine Saloum ?
Saloum, c'est le nom d'une région du Sénégal dans laquelle atterrissent en urgence 3 mercenaires qui agissent pour le compte de trafiquants de drogue mexicains. Ce sont ces 3 mercenaires qui vont se retrouver dans un écolodge et affronter des créatures surnaturelles. Alors, le Saloum, j'ai demandé à Jean-Luc Herbulot s'il connaissait bien les paysages de cette région avant d'y planter ses caméras.
Non, pas du tout. Moi, j'ai grandi au Congo-Brazzaville. Je suis arrivé en France à mes 18-19 ans, après mon bac. Je ne connaissais pas le Sénégal. Pour tout vous dire et pour vous l'avouer, je n'étais pas forcément attiré par le Sénégal en général. Et c'est en venant tourner la série Sako et Mangan au Sénégal que je suis tombé littéralement amoureux. Et je ne connaissais pas la région du Saloum. Et pareil, je l'ai découverte grâce à ma partenaire de production qui s'appelle Pamela Diop, qui est originaire de cette région. Et je suis littéralement tombé amoureux du Saloum.
Est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette région du Saloum ? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier ?
Alors, le truc que je peux vous dire déjà sur le film, c'est que vous verrez que, sans que j'exagère, peut-être un cinquième du Saloum, c'est tellement vaste, c'est tellement grand, c'est tellement divers. Il y a beaucoup de paysages qu'on voulait montrer dans le film qu'on n'a pas pu, tout simplement. C'est là où le désert rencontre la mer, comme ils disent dans le film. Donc c'est un mélange de désert, de pierre, de sable, et en même temps de mer, fleuve, et en même temps de paysage très vert aussi. Donc c'est un mélange de plein de choses.
Et est-ce que c'est le paysage qui, du coup, vous a donné l'envie de tourner un western, même si ce n'est pas qu'un western, on y reviendra.
Alors oui et non, je pense que le western, c'est un genre qui est déjà très ancré dans mon ADN, parce que j'ai grandi avec surtout les westerns italiens, donc les westerns spaghetti. Mais je pense qu'effectivement, oui, j'ai été inspiré et ça a nourri le film en même temps.
Saloum, c'est un film à la croisée des genres. On a parlé de western, mais c'est aussi peut-être avant tout un film noir, un film de vengeance, un revenge movie, et puis avec du fantastique.
L'idée, effectivement, était de mixer plusieurs genres dans le film et de le faire de manière un peu ludique et surtout pour les gens qui connaissent un peu les codes des films de genre. Donc je voulais jouer un peu avec ça et en même temps... ça allait particulièrement avec les personnages qui habitent cette histoire. Le fait de passer d'un genre à un autre aussi.
Vous voulez dire parce qu'ils ne sont pas ce qu'ils paraissent être.
Ça qui était une idée de Pamela, qui au départ, quand on a parlé de l'idée de faire ce film, me disait j'aimerais bien qu'on fasse un espèce d'Agatha Christie dans le salon, ce que j'avais trouvé intéressant comme idée. Et après, je suis venu un peu plus tard avec l'idée des créatures et l'idée d'avoir des militaires qui peuplent ce camp, ou en tout cas qui arrivent dans ce camp. Donc ça a amené accidentellement et ensuite, de manière plus ludique, plusieurs genres dans le film. Donc je m'en suis servi. Mais au départ, tout part du scénario et tout part de personnages que vous essayez de laisser parler quand vous êtes un auteur. En tout cas, c'est comme ça que je fais.
Alors, est-ce que vous diriez, Jean-Luc Herbello, que ce film, c'est vraiment véritablement un film panafricain ?
La bannière africaine est importante parce que c'est un film pour les adolescents et pour les enfants, parce que c'est eux qui vont grandir avec un imaginaire. Et moi, j'ai grandi avec un imaginaire un peu, en tout cas quand j'ai grandi en Afrique, beaucoup plus occidental et oriental que africain, finalement, ou du sud, je pourrais dire. Donc l'idée, c'était de commencer à créer des héros, tout simplement. C'était un travail que j'avais déjà un peu commencé avec Saro et Mangan, où je me disais, c'est important... Je suis toujours en dialogue permanent avec mon enfant, ma version de moi qui avait 7 ans, 7 ou 8 ans. Quand j'ai commencé à écrire des histoires, quand j'ai commencé à chercher des héros, je me suis rendu compte qu'il y en avait énormément dans ce que me racontaient mes parents, mes grands-parents quand j'étais en Afrique, mais je ne les retrouvais jamais sur le papier, je les retrouvais jamais à l'écran, je les retrouvais jamais nulle part. Donc je me suis dit un jour, si j'ai la chance de pouvoir continuer dans une carrière artistique ou avoir une carrière artistique, j'aimerais bien créer ce genre de personnage pour les générations qui arriveront après moi. Et c'était un peu l'idée de Saloum. Donc bannière panafricaine, oui, c'était voulu, mais à la base, ce qui est voulu, c'est de mettre en avant des histoires et des bestiaires et des légendes avec lesquelles on a grandi et de les rendre accessibles au maximum de gens.
Et dans ce cadre, j'imagine que la sélection du film à Toronto, puis les prix à... Je crois que c'est à Austin, c'est ça, enfin au Texas, lors d'un festival,
ont été Austin, particulièrement. Vancouver, ouais. Il y a pas mal de. Le film a fait pas mal de festivals, effectivement.
Et pas mal donc en Amérique du Nord.
C'était un peu un accident, non ? Enfin oui. L'idée de Saloum, c'était de faire quelque chose qui n'a, en tout cas pour l'instant, que j'ai pas vu en Afrique francophone. Donc l'idée, c'était de faire quelque chose de neuf. Donc on se doutait que ça allait faire jaser un peu, dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais c'était le pari qu'on avait décidé de prendre, de se dire on va faire quelque chose qui n'a pas été fait et surtout on peut faire autre chose que du drame ou des films qui sortent sur le misérabilisme en Afrique. Donc Saloum, il contrecarrait un peu tout ça et la sélection, surtout en Amérique du Nord, on était assez étonnés parce que moi le but c'était que ça marche en Afrique et que les Africains le voient d'abord. Mais ça a commencé d'abord aux États-Unis effectivement. Donc c'est parti aux États-Unis et puis c'est lentement revenu vers l'Afrique et la France.
Voilà, Jean-Luc Herbulo, un cinéaste à suivre qui, depuis Saloum, a déjà tourné 2 longs métrages qui vont bientôt sortir en salle, Zéro et La saveur de la mort avec Joe Starr et Asia Argento. Ainsi s'achèvent tous les cinémas du monde. Au micro, Isabelle Chenu.
Et Sophie Turlotin, à la console Fanny Renard.
Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie de Rachid Ami pour son film Pour la France. D'ici là, bonne semaine à tous.